Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Closier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous, c'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier, on est ensemble jusqu'à 15h sur RMC. À 14h50, on va partir en Norvège à la rencontre de Doran à Oslo, ancien violoncelliste à Radio Norvège. Il est aujourd'hui manager dans une institution scandinave qui promeut la culture norvégienne dans le monde. À mon avis, il parle norvégien. Il va nous parler de son quotidien tout à l'heure, mais avant, on va parler de travail. Trop de travail, trop de réflexion sur le travail, trop de moments personnel pollué par le travail. C'est la conclusion d'une étude menée par l'IFOP pour la start-up Mooncard. Elle touche principalement les femmes avec enfants et les cadres. Ça, c'est la charge mentale. Cette étude a établi un indice de charge mentale sur 6 critères, comme le sentiment d'avoir du mal à s'endormir, l'impression de ne pas parvenir à s'en sortir ou le fait de penser à son travail le soir et le week-end. 92% des cadres français pensent au travail en permanence. 39% n'arrivent pas à dormir à cause de problèmes au boulot. La vie intime est également touché. 16% des salariés reconnaissent penser au travail au cours de leur relation sexuelle. Un désagrément, si on peut appeler ça comme ça, qui touche un peu plus les femmes que les hommes. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse le plus? Ce sont les notes de frais, la gestion des congés, les mails et votre salaire. Alors vous, est-ce que vous arrivez à déconnecter du travail? On vous attend au 32-16. Emmanuel, toi, tu déconnectes très très bien.
Ouais, mais alors après, chacun son, enfin, je veux dire, je sais pas si mon cas personnel est intéressant, mais.
Si, c'est très intéressant.
Mais après, ce qui est intéressant, c'est les trucs, éventuellement, qu'on peut, avec lesquels on se déconnecte du boulot. Après, chacun en fonction de, moi, je sais que, par exemple, quand je pars d'ici, le vendredi soir, j'ouvre pas un journal du week-end, je regarde pas une info, et je reviens le lundi matin, et je regarde ce qui s'est passé pendant le week-end. Donc, je ne suis pas l'actualité particulièrement. Pendant mes vacances, je ne lis jamais le journal, quasiment. Je ne m'intéresse à rien. Quasiment. Donc voilà. Et après, bah les problèmes du vendredi, tu les laisses le vendredi et tu les récupères le lundi matin. Mais peut-être que tout le monde n'a pas la possibilité de, vu de son métier, de le faire.
Moi, mais je pense toi, si on t'envoie un mail en dehors des heures du travail, tu ne réponds pas.
Mais tu sais très bien que je ne réponds
mais
pas.
Je voudrais que tu dises à cette antenne.
Voilà, donc je ne regarde pas ma boîte mail pendant le soir. Je ne regarde pas ma boîte mail le week-end, etc. Et le lundi matin, vous m'avez tellement manqué pendant deux jours. Je suis trop heureux de vous retrouver. Après, je pense que c'est important de se ménager aussi je pense qu'il y a une phase de décompression qui est importante aussi entre le travail et le moment où tu rentres chez toi. Alors ce que je vais dire là,
ayez une vie, c'est ça que tu veux dire?
Bah, je veux dire aussi, alors non,
trouvez-vous une passion?
En gros, il n'y a pas que deux vies. Il n'y a pas que la vie au boulot et que la vie de famille. Voilà, et je pense que c'est important d'avoir des centres d'intérêt.
Bah donc tu fais quoi?
Des passions personnelles, qui font que tu peux te changer les idées et t'échapper à la fois de la charge mentale de la vie familiale et à la fois de la charge mentale de la vie professionnelle.
Donc toi, voilà. C'est quoi la passion pour les Lego?
Il y a plein de possibilités. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux aimer lire de la poésie. Tu peux aimer faire la cuisine. Tu peux aimer, faire du tricot, aller dans un club de macramé.
Que des passions extrêmement modernes.
Mais j'en sais rien.
Emmanuel nous propose. Laurent, toi, tu déconnectes mal.
Ben, c'est très intéressant parce que avec Emmanuel, on fait le même boulot et pourtant, on se comporte pas du tout de la même manière. Moi, le soir, quand je rentre chez moi, j'ai beau ne plus être au travail, je n'ai pas totalement fini de travailler. Donc, je continue à lire mes mails. Quand je suis en week-end, je peux pas m'abstenir de lire les journaux, de regarder ce qui se passe. Quand je suis en vacances, vous allez me prendre pour un dingue. La première chose que je fais, c'est de trouver l'endroit où je vais pouvoir aller acheter mes journaux. Et la première chose que je fais, c'est d'y aller et d'ouvrir un compte où je vais prendre tous les journaux tous les jours pour pouvoir payer le libraire à la fin de la semaine ou à la fin de mes vacances. Je suis comme ça.
Oui, et tu fais un débat
avec tes copains le midi.
Et le seul...
Ça s'appelle Neumann et ses copains. et moi, je suis d'accord. Moi, je suis
et
pas
le
d'accord.
Le seul moment où je déconnecte vraiment, c'est il faut au moins que je prenne 3 semaines de vacances d'affilée. Ah oui. Donc, c'est l'été. Et encore, une semaine avant de rentrer au boulot, je me replonge exactement dans le même rythme où je recommence à lire tous mes mails, à lire les journaux, à regarder ce qui se passe, etc. Oui, j'ai beaucoup de mal. Et c'est vrai que mes proches, ou me le reprochent, ou ils se moquent de moi, un peu quand même. Mes copains, ça les fait beaucoup rire, oui.
On est avec Thierry Le Fur. Bonjour, intervenant en prévention des risques professionnels, spécialiste des comportements numériques addictifs. Justement, souvent, on a l'impression que cette addiction au travail passe par les outils numériques. Laurent, ça n'a rien à voir, par exemple.
Alors, il y a plusieurs aspects. En ce qui concerne Laurent, par exemple, il y a peut-être un peu accro à l'info. Alors, ça semble de l'infolisme. L'infolisme, ça veut dire, finalement, je suis dans une forme d'addiction au besoin d'avoir de l'information. On nomme aussi le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater une information, ce qui est assez logique dans...
La peur du vide.
Ah non, mais moi, attendez, juste une chose. Je vais vous résumer le truc de façon extrêmement simple. Je pense que quand on fait ce métier, quand on est journaliste, on n'est pas journaliste 5 jours par semaine, 8 heures par jour. On est journaliste tout le temps. Voilà, ça s'arrête pas. Alors, on peut prendre des moments. Ça veut pas dire que j'ai pas dit de famille.
T'es pas curé, Laurent. T'es pas prêtre. Non, mais, t'es pas rentré dans les ordres dans un métier de journaliste.
Mais c'est pas faux.
Pardon, je pense que tu te trompes, mais.
Chacun fait
comme il veut. Moi, je te dis, ça n'arrête pas. Je n'arrête jamais. Voilà. Mais ça m'empêche pas d'avoir une vie de famille. Ça m'empêche pas de voir mes copains. Ça m'empêche pas d'avoir des centres d'intérêt très personnels. Ni le tricot, ni le macramé, en l'occurrence. Mais.
La poésie, peut-être. La poésie allemande.
Ah oui, bien sûr.
Donc Thierry Le Furde, ça c'est la peur du vide, voilà, en sorte.
Voilà, tout à fait, oui.
Et le numérique, par contre, ce qui n'est pas le cas de Laurent, a quand même poussé certains comportements d'addiction au travail.
Oui, tout à fait. Parce que ce sont toujours les mêmes processus de conduite chronique. En fait, quand vous êtes dans une conduite chronique, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train d'être sur Internet, etc., si à un moment donné vous êtes en difficulté, en souffrance, ça peut basculer dans quelque chose qui peut relever de l'addiction. Ça, c'est le premier point. Là, Laurent, vous évoquez le problème des temporalités, enfin le problème de temporalités différentes entre deux interlocuteurs. Effectivement, dans certains cas, certains sont dans une temporalité où ils arrivent à segmenter, où ils ont envie de segmenter, où vous n'avez pas envie de segmenter. Ça, c'est parce que finalement, quand même, les informations, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose qui nous nourrit, c'est quelque chose qui nous donne du plaisir. C'est l'adrénaline, hein, quelque part. Donc, on n'a pas envie de se passer, finalement, de quelque chose qui fait fonctionner notre cerveau. Inversement, on peut très bien se dire, dans nos ressources, dans nos temporalités ressources, finalement, on arrive à faire des pauses en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec le numérique.
Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, est-ce que vous arrivez à vous déconnecter du travail? On attend vos témoignages, vos messages, vos réactions sur Facebook, sur Twitter et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Patricia qui a beaucoup de mal, elle aussi, à déconnecter, qui est artisan taxi à Bizanet dans l'Aude. Bonjour Patricia.
Bonjour à tous.
Bonjour Patricia.
Toi Patricia, tu ne prends jamais de vacances?
Non, jamais.
Ah oui.
Je sais pas ce que ça veut dire, plus ou moins. Ça m'est arrivé avec mon mari en 43 ans presque de mariage. Nous sommes peut-être partis 3-4 fois en vacances. Et je ne sais pas décrocher du travail. Je travaille, j'ai mis dans mon mail une moyenne de 12 heures par jour. Je roule. Bon, il y a de l'attente aussi. Ça peut être plus. Je me lève la nuit. Je décroche le téléphone la nuit. Je décroche le téléphone le samedi, le dimanche. Je dépanne les collègues. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Mais je me sens utile qu'au travail.
Alors. Donc, c'est plus que le besoin financier, c'est l'utilité.
C'est l'utilité. Dans cette société, il faut être actif, sinon vous êtes très vite exclu.
Alors, Patricia, il y a un point qui est intéressant, c'est que quand on pense justement effectivement à capacité à décrocher, charge mentale, on se dit ça concerne des gens qui, par exemple, ont des responsabilités. Toi, tu es artisan taxi, donc on peut se dire, une fois que le soir t'as rangé ton taxi, t'es pas spécialement encombré par tes soucis. Le lendemain, tu feras une autre journée. Et donc, c'est assez intéressant ton cas parce que t'as pas envie de te reposer quand même.
Non. Mais quelques heures par nuit, ça suffit à recharger mes batteries. Et je dors très peu et je disais physiquement et mentalement assez résistante.
Non mais Patricia, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, tu prends énormément de plaisir aussi.
Exactement.
À faire ton travail.
Exactement.
Tu adores ton boulot.
Et donc, tu as
peut-être des autres centres d'intérêt d'ailleurs, mais c'est dans le boulot que tu t'épanouis le plus.
Oui, que je m'épanouis le plus. Mais tous les travaux que j'ai faits, ça fait 11 ans que je suis artisan, que je suis chauffeur de taxi, 4 ans que je suis à mon compte, mais tout, j'ai travaillé 9 ans dans la viticulture, ce métier m'a passionné, j'ai tout pris de la viticulture, à la base, je suis une sténodactylo, je suis une ancienne sténodactylo. Et puis bon, Internet, l'ère d'Internet étant venue, la sténo a été vraiment mise au placard. Mais j'ai exercé dans le secrétariat, j'ai travaillé pour l'armée, j'ai dans un état-major.
T'as toujours, peu importe le métier, t'es à fond,
partout,
quoi.
Donc, partout.
Tu es ce qu'on appelle une work alcoolique.
Alors Thierry Le Furde.
Partout, je suis passé, j'ai adoré ce que j'ai fait parce que c'est ça qui manque aux Français, ouais. La passion de ce qu'ils font.
Patricia, oui, c'est typiquement la workaholic.
Ah ben c'est le mot que j'allais dire, donc que ça correspond tout à fait. Dans lequel elle trouve du plaisir, elle trouve de la reconnaissance, de l'utilité. Et alors ça conduit à ce qu'on nomme le surengagement, c'est-à-dire que je vais au-delà de ce que l'on me demande. Je travaille avec des DRH, je travaille avec des syndicalistes, et les syndicalistes qui pourtant auraient pour vocation d'encadrer les horaires sont parfois ceux qui, par passion de leur travail, sont ceux qui font le plus d'heures parce qu'ils ont leur travail, ils ont leur réunion, etc. Dans beaucoup de cas. Donc on est dans des mécanismes où quelque part on n'a pas envie de couper son travail puisque finalement c'est un moment de vie qui est particulièrement plaisant. Et là peut-être dans un taxi, en plus on est dans son petit monde à soi. Et c'est d'ailleurs la problématique du télétravail, c'est que dans le télétravail, ceux qui ont réussi à se créer un cadre agréable chez eux, ils n'arrêtent plus.
Donc ils veulent plus rentrer.
On est arrivé dans pas mal de cas à ce qu'ils travaillent 2 ou 3 heures de plus en moyenne par jour qu'ils ne travaillaient en allant au travail.
Patricia, est-ce que tes proches du coup te font des reproches comme
bien
Laurent
sûr. Bien évidemment. Bien évidemment, moi-même, mes enfants, je travaille trop, je vois pas mes petits-enfants grandir. Mon mari, qui se retrouve seul, voilà, il est malade, il est en ALD depuis 5 ans, donc il s'est retrouvé du jour au lendemain, c'était quelqu'un d'actif, il s'est retrouvé du jour au lendemain à la maison et tous les mois, il est en soins assez lourds dans les hôpitaux. Donc il me reproche, il me dit je te vois pas, mais dès que je suis chez moi 3 heures, 4 heures, je le téléphone il sonne, c'est ma bouée de sauvetage. Vous voyez, je décroche. Je le regarde, je décroche et je ne peux pas dire non. Je ne sais pas dire non.
Patricia, Thierry Le Fur, elle reconnaît très bien que c'est elle qui choisit en fait de partir, d'aller travailler. Mais il y a beaucoup de workaholics qui décident de dire ah non, mais je subis en fait. Ça n'est pas de ma faute. Je travaille trop. J'aimerais être là, mais je ne peux pas. Et du coup, ça fait beaucoup souffrir l'entourage. Est-ce qu'il faut reconnaître qu'on est complètement drogué au travail et que c'est son propre choix?
Il y a 2 aspects. Le premier, reconnaître que l'on est, déjà savoir si on l'est. Il y a des tests pour ça qui permettent de se qualifier dans ce domaine-là. Le deuxième point, si c'est le choix, on le sent quand même assez vite. C'est-à-dire, soit c'est une pression, et là, quand on se touche à l'addiction, c'est pas. Il y a une partie de l'environnement aussi qui peut vous pousser à aller trop loin dans vos consommations, dans vos activités. Mais pour une autre part. Il y a tellement de sentiments que quelque part, quand je suis là, j'y suis bien, qu'on n'a pas envie de le quitter.
Donc ça, c'est quand ça fait du bien, en fait. On se fait du bien.
Quand on s'en fait du bien. Alors, ce qui est assez dangereux avec le numérique, c'est moins son cas encore que vous avez vu qu'elle accroît son téléphone un petit peu, pardon. Et c'est qu'un écran, c'est quelque chose de très captivant. Donc, quand on est devant l'écran, on n'a plus envie de.
Mais alors, par exemple, le conseil qu'on peut donner, c'est de séparer sa vie numérique professionnelle et sa vie numérique. Personnel. C'est-à-dire qu'en gros, tu as t'as ta messagerie de boulot, tes comptes de boulot, et puis tu as ton Facebook, ton WhatsApp, tout ce que tu veux perso, mais ou ton Insta perso, mais tu ne mélanges pas les deux, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller voir sur ton compte professionnel tes mails.
Il y a une énorme différence entre l'addiction au travail choisi et l'addiction subie.
Est-ce que tu mets la différence?
Je vais aller très très simple. Si tu prends beaucoup de bonheur au travail. Patricia, elle dit même que c'est sa planche de survie. Mais si elle trouve son bonheur comme ça, il y a zéro problème. En revanche, si c'est une addiction au travail qui est subie parce qu'on est harcelé en permanence par une hiérarchie qui t'envoie des mails à pas d'heure, qui ne respecte pas ta vie personnelle, et que toi, tu voudrais t'abstraire du travail mais que tu ne peux pas, c'est pas la même chose.
Oui, mais beaucoup font semblant en disant je peux pas, c'est le travail, je suis soumis au travail, alors qu'en fait, ça reste quand même un choix.
En fait, c'est un choix. Tant que c'est un choix, ils sont heureux.
Non, mais ça fait beaucoup souffrir l'entourage.
Ah, bah oui. Alors après, il faut savoir, de ne laisser la bonne part de ton temps de cerveau disponible aux gens que t'aimes, à tes amis, à ta famille et même à tes loisirs personnels.
Merci beaucoup, Patricia, d'avoir été avec nous, d'être venue débattre et nous confier ton cas personnel. On va continuer à parler du travail. 92% des cadres français pensent au travail en permanence. 39% n'arrivent pas à dormir à cause des problèmes du travail. Alors, est-ce que vous arrivez à vous déconnecter? Thierry Le Fur, vous restez avec nous, intervenant en prévention des risques professionnels et spécialiste des comportements numériques addictifs. On vous attend au 32-16. Venez nous parler de votre rapport au travail. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, on est ensemble jusqu'à 15h. On parle travail. 92% des cadres français pensent au travail en permanence. 39% n'arrivent pas à dormir à cause des problèmes au boulot. Alors, et vous, est-ce que vous arrivez à déconnecter du travail? Emmanuel Le Chiffre, aucun problème. Ça demande un peu d'effort, pas beaucoup, mais déconnectez-vous, on est mieux sans le travail. Pour Laurent Neumann, non, il est incapable et ses proches lui font des reproches. On est toujours avec Thierry Le Fur, intervenant en prévention des risques professionnels. Oui.
Oui, moi, je peux donner un petit conseil personnel. La seule façon de déconnecter, déjà, c'est de quitter la ville dans laquelle on travaille. Dès que je quitte Paris, je suis un peu plus déconnecté du travail, même intellectuellement.
Oui, mais c'est parce que t'es pas très, si je puis me permettre, connecté aux outils, aux devices.
Mais c'est faux. Attends, alors si tu vivais avec moi, tu saurais que je regarde des dépêches AFP toute la journée, même pendant les vacances.
Mais donc, parce qu'avec ton téléphone, tu peux avoir accès
à
tout.
Oui, mais c'est pas pareil. Quand tu es ailleurs, tu es dans un autre cadre.
Alors, qu'est-ce qui vous tracasse en premier? Ce sont les notes de frais, les jours de congé, la gestion de la santé au travail et la rémunération, mais derrière les notes de frais. Les notes de frais, ça tracasse.
Ça fait de la même. C'est-à-dire que si les gens, ce qui les stresse, c'est leurs notes de frais.
Toi, t'es riche, c'est pour ça que ça te tracasse pas. Mais la note de frais, ça peut être une tracasserie quand même.
Je suis le premier à reconnaître que c'est un enfer.
Ah bah alors.
Non mais.
C'est
un enfer au sens.
Chose et son contraire.
Mais c'est pas la question. C'est ennuyeux à faire. Ça prend du temps. Mais de là à ce que c'est ennuyeux. Mais c'est pas stressant. Pourquoi c'est stressant? Enfin, tu vois, c'est pas ça qui t'angoisse. Ce qui t'angoisse, c'est la pression que te met ton supérieur pour tenir des objectifs. Et comment tu vas les tenir? Ça, oui, je comprends que ce soit stressant. Enfin, si on s'angoisse pour remplir de la paperasserie de notes de frais.
Je sais que c'est une émission de débat, mais ça fait 3 heures que tu nous engueules.
Non, mais je trouve ça dommage de se stresser.
On est épuisé. On va avoir besoin d'une déconnexion à 15h, Emmanuel. Lisa Marie, quelle est la première tendance? Oui, insulte-nous encore un petit peu. Lisa Marie, quelle est la première tendance?
On vous pose la question, est-ce que vous arrivez à vous déconnecter du travail? Vous êtes pour le moment 65% à répondre oui, vous réussissez à vous déconnecter. On a beaucoup de messages sur l'application RMC. Laurent écrit, pourvu que ma chérie ne voit pas ce sondage, je suis indigne là-dessus, je ne fais que ça. Boulot, mais en même temps, j'adore ça. Romain, au contraire, écrit « Une fois que j'ai passé la porte du travail, je suis totalement déconnectée. » Et puis, Marie nous partage sa philosophie. Elle écrit « Je travaille pour vivre, mais je ne vis pas pour mon travail. »
Et toi, Lisa, tu nous as pas dit que tu arrives à déconnecter du travail ?
Bah oui, j'arrive à déconnecter. Oui, j'arrive. Après, c'est vrai que d'avoir les mails sur le téléphone, les réseaux sociaux, c'est ça en fait la grande difficulté. Je pense qu'il y a quelques années, ça devait être probablement différent. Quand on reçoit un mail à 21h sur son téléphone, on a la notification, on le regarde. Donc, je pense qu'on n'est pas entièrement déconnecté.
Prépare ta réponse, Laure, parce que je vais te poser la question dans une minute.
Ah, mais moi, je suis folle, moi. Je suis complètement tarée avec le travail.
Ah, je m'en doutais.
Ah, mais moi, je suis complètement. Non, mais moi, je suis au bord du divorce. Ah, bah pas du tout. Moi, je dis qu'il faut absolument pas faire comme moi. Mais moi, c'est génétique. J'ai été élevée par un workaholic qui m'a transmis l'idée que celui qui ne travaille pas est un inutile. Donc, non, je travaille tout le temps, moi.
Il faut surtout pas lui présenter.
Et je travaille pour même avoir des moments où je suis tranquille, pour les justifier, tu vois. Je me sens mieux quand je suis tranquille parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais si j'ai pas beaucoup travaillé, ben, je peux pas bien me reposer.
Ah ouais.
Oui, je suis bonne pour
en fait,
pour
tu es coupable. Tu te sens coupable.
Oui, je me sens coupable, c'est vrai.
Vous êtes des vrais.
Mais moi, chez mes grands-parents, il y avait pas de canapé hein, pour pas s'asseoir, pour pas se reposer. Tout le monde sur une chaise malades. Et on bosse.
Comment tu faisais avant quand tu n'avais pas les outils numériques?
Très difficile, tu sais. Mais allez, on va au 32-16.
Vous êtes des
frustrés de la vie. Neumann Le Chiffre.
32-16.
Et on est avec Lydia qui nous appelle depuis Lyon, qui est docteur en médecine générale et en pharmacie. Bonjour Lydia.
Oui, bonjour.
Lydia, tu as pas l'air mieux que moi. Tu as l'air aussi zinzin du travail.
Ouais, en fait, c'est exactement ça. Donc, moi, j'ai très acharné du travail. J'ai quitté médecine il y a un an. Donc, j'ai fait toute une passerelle pour devenir docteur en pharmacie. Et puis, c'est vrai que moi, pour avoir travaillé dans une très, très grande pharmacie de la région lyonnaise, en fait, dans le centre de Lyon, c'est vrai que c'était pour moi impossible à déconnecter. Enfin, je bosse du lundi au samedi. J'ai un samedi sur deux. Par contre, les vacances sont très, très importantes pour moi. Ça doit être ma seule source de stress au travail quand je demande des congés, c'est ça. Et puis, c'est vrai que moi, je déconnecte pas parce que finalement, même quand je suis en vacances, ben, vous avez toujours les collègues du travail qui vous racontent ce qui se passe au travail et ce qui m'angoisse le plus. Alors, c'est pas les notes de frais. Ça, c'est sûr que c'est pas une excuse de m'angoisser. Mais c'est d'un point de vue organisation. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a rien eu de grave, etc.? C'est que de l'organisation, en fait.
Est-ce que être workaholic, Thierry Le Fur, ça permet de se sentir aussi hyper utile? Lydia, elle a peur que quand elle est partie, ça marche plus en fait.
Il y a quelque chose de fondamental sur l'utilité que l'on a, qu'on se donne d'une part sur la reconnaissance, parce que quand on est médecin, on sauve des vies. Et puis troisièmement, on rentre dans un système un peu permanent. C'est-à-dire, si subitement on n'est plus là, on se dit, mais est-ce que le monde peut continuer à tourner sans moi, sans être mégalo, hein. Mmh. C'est vraiment... Que va-t-il se passer? Alors, comme là, en plus, dans le cas de notre auditrice, elle évoque le fait qu'elle continue à suivre ses patients, qu'en plus, elle aime savoir ce qui se passe dans son service, ça devient une famille, mais une famille au sens de plus en plus large.
À quel moment ça devient dangereux de trop travailler?
Alors, on a évoqué en début d'émission les chiffres sur le sommeil. Déjà, la première chose, c'est le sommeil. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Il y a la santé mentale et la santé physique. La santé mentale, on a commencé à l'évoquer avec les risques de burn-out quand on va trop loin dans le workaholisme dans lequel on peut plus décrocher. Juste une chose, mon père était un chercheur d'un certain niveau. Quand on allait repartir en vacances, il n'y avait pas le téléphone dans notre maison de vacances. Ça n'existait pas. Donc, ça veut dire qu'il y avait des plages de 3-4 semaines de totale coupure, des week-ends de totale coupure, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Donc,
mais il n'y a plus de coupure de rien, parce que avant, quand votre enfant était malade, on vous appelait pas au travail pour aller le chercher. Aujourd'hui, l'école vous appelle tout de suite, il faut y aller. Il y a plus de coupure, tout s'entremêle.
Ah, tout s'entremêle, c'est pour ça qu'il y a eu le droit à la déconnexion dans le monde du travail, en se disant...
C'est écrit, dans le code du travail.
C'est dans le code du travail, sachant que l'idée c'était de se dire, il faut à tout prix qu'on fasse un... Alors d'ailleurs, on est allé tellement loin dans la fusion vie professionnelle, vie personnelle, qu'on parle des équilibres, on parle plus de la rupture. Donc le droit à la déconnexion, on dit j'ai le droit de rompre, et dans la réalité, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas des équilibres à trouver? Alors, on essaye de conserver l'équilibre mental. L'autre aspect sur la santé physique, c'est que de plus dormir, encore un médecin, vraisemblablement, bouge beaucoup physiquement. Mais si la personne reste tout le temps assise et dort plus assez, les risques en santé physique deviennent explosifs.
Il y a une population qui est quand même particulièrement vulnérable. Et qui s'exprime dans le sondage, c'est quand même la population des
femmes,
cadres.
Oui, des cadres et des femmes avec enfants.
Dont beaucoup sont des femmes aussi. Parce que là, effectivement, et là, c'est la remise en cause même du métier de cadre. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous regardez les enquêtes qui sont faites par tous les cabinets de conseil, etc., en ressources humaines, le nombre de gens qui veulent devenir cadres, il y a très peu de gens qui veulent.
Ça n'intéresse plus personne de manager des gens.
Plus personne de devenir cadre. Parce que c'est la loi de l'emmerdement maximal. C'est-à-dire que, en dessous, les subalternes, ils sont jamais contents. Vos chefs au-dessus, ils sont jamais contents. Vous êtes pris en tenaille entre tout un tas d'injonctions contradictoires, avec une reconnaissance qui ne va plus, avec parce que maintenant être cadre, ça n'est plus synonyme de revalorisation de salaire importante.
Alors c'est un statut, c'est promotion. Pas forcément ton voilà. Cadre, pas forcément.
Mais avant, il y avait ça, il y avait cette idée de participer et de monter. Là, je veux dire, c'est cadre aujourd'hui, c'est quand même un métier de chien.
Alors vous évoquez d'ailleurs les injonctions contradictoires ou paradoxales, mais c'est vrai, véritablement ça, c'est que vous vous retrouvez tout le temps tendu entre deux pôles, et en anglais, tension, c'est stress.
Donc les injonctions contradictoires ou paradoxales, c'est faire plus avec moins, donner plus de liberté tout en surveillant les salariés, enfin c'est ça sans cesse.
Voilà, c'est ça, c'est des paradoxes permanents.
Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Ça va pas s'arranger parce qu'en plus, quand on regarde le sondage fait par Mooncard, plus les salariés sont jeunes et plus c'est compliqué de déconnecter. Un grand merci.
Mais le rapport au travail, j'ai l'impression, est en train de changer à cause de ça. Les jeunes générations,
ne sont pas
aussi attachées que nous, les vieux comme nous avec Emmanuel, au travail.
C'est sûr qu'elles préfèrent aller faire la fiesta.
C'est relancé. Merci beaucoup, Lydia, d'avoir été avec nous dans Neumann le Chypre. On va sortir Emmanuel de cette émission et on va prendre Bastien qui nous attend à Beauvais. Bonjour Bastien. Bastien, est-ce que tu es avec nous?
Vous m'entendez?
Oui Bastien, oui, on t'entend. Toi tu travailles dans la maintenance aéronautique, tu as eu des problèmes de santé à cause du travail.
On peut dire ça comme ça, je pense que c'était un burn-out déguisé, je ne l'ai jamais admis, mais je peux dire ça, ouais, j'ai fait une myopéricardite aiguë, donc du coup ça m'a valu une semaine d'hôpital de repos et donc voilà quoi.
Et tu penses que c'est à cause de ton rapport au travail? Tu étais disponible tout le temps?
Disponibilité, repenser sur la route toute la journée, le soir, si j'ai bien travaillé, si j'ai pas fait d'erreur, parce que ça a des coûts financiers au niveau des clients derrière. Finalement, on veut satisfaire tout le temps le zéro reproche, et on en arrive à plus jamais déconnecter et à avoir quasiment tout le temps la tête au boulot. Donc là, j'essaye de faire la part des choses au jour d'aujourd'hui, mais je me rends compte qu'il est encore difficile. Moi, ça m'arrive de penser le soir en me couchant, tiens, faut pas que j'oublie ça, d'envoyer des SMS à des potes pour voilà, ouais. Pour et c'est ouais, je pense que ça devient compliqué. Après, comme vous dites, peut-être que les jeunes ont plus de facilité, mais il y a peut-être la chose de se dire, je veux pas perdre mon boulot. Parce qu'on
a l'impression, Bastien, quand on t'entend, que si tu ne penses pas au travail, c'est que t'as mal géré tes clients, qu'on fait mal si on arrive à se déconnecter, qu'on culpabilise en fait, Thierry Le Fur. Ouais, vas-y Bastien, vas-y.
Non, ouais, exactement, c'est ça. Enfin, au niveau surtout des clients, de la hiérarchie et de la société.
Volonté de bien faire.
Exactement, tout à fait.
Thierry Le Fur.
Alors d'une part, on a la volonté de bien faire qui peut être très personnelle, puis d'autre part, avec ce qu'on a tous entendu dire, des tableurs, des reportings, etc., on se dit, mais mince, je suis pas dans la colonne, je suis pas dans la case. Si je suis pas dans la case, est-ce que je suis encore dans le travail demain? Et j'ai bien aimé le zéro reproche aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on donne tellement qu'on n'a pas envie que quelque part, on aille vous reprocher le petit truc. Alors, du coup, on va vérifier si le petit truc, en plus, on l'a bien fait, d'une part, et d'autre part, pour les clients. Moi, j'étais dans ce domaine à un moment donné. Parfois, gagner une affaire, ça se joue à rien. Donc, si vous loupez à un rien votre affaire, votre patron va dire derrière, mais attends, ce petit truc, tu aurais pu le faire.
Sauf que pour ceux qui travaillent beaucoup, qui ne déconnectent pas ou peu et qui veulent être absolument dans le zéro reproche, il y a forcément une déception majeure, oui, qui est que la reconnaissance n'est jamais au niveau de l'implication qu'on a mis dans son travail.
Il y a toujours de la déception.
Oui, du coup, on en fait de plus en plus, c'est décevant, et on arrive à ce qu'est le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment de l'épuisement lié assez fondamentalement au fait qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus à faire ce que...
Mais justement, quel conseil on peut donner pour que quelqu'un ne se sente pas coupable de pas en faire assez.
Moi j'en ai un. L'autosatisfaction. Il faut se dire bravo. Il faut pas attendre de ses chefs qui disent bravo, alors tu as bien travaillé. Moi tous les jours je me félicite.
Mais il y a aussi un problème peut-être. J'ai l'impression de dévalorisation, c'est-à-dire que comme on pense qu'on est peut-être pas assez bien, etc. On en fait toujours plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de raisonnable à son patron sans que on redoute que le patron dise qu'on est feignant, tire-au-flanc.
Attends, excuse-moi. Il y a un double problème. L'autosatisfaction. Pourquoi tu en arrives à dire le conseil à donner, c'est l'autosatisfaction.
Il ne faut rien attendre des autres, tu es plus tranquille comme
voilà,
ça.
Mais voilà, parce qu'il y a un problème de reconnaissance, que tu travailles bien ou pas bien. La reconnaissance, elle est de deux façons.
Oui, mais c'est sans fin.
Non, mais la reconnaissance, elle est double. La reconnaissance, elle vient ou du salaire, ou elle vient de ce que peuvent te dire tes responsables.
Elle n'est jamais placée au bon endroit.
Si tes responsables ne disent pas grand-chose, ne reconnaissent pas ton implication et ton travail, et que par ailleurs ton salaire n'augmente pas, mais que tu continues toi à t'impliquer comme un maboule dans ton travail et qu'il y a zéro reconnaissance.
Ouais, mais en fait la reconnaissance c'était pas celle de ton chef, c'était celui de ton père et t'en finis jamais. Et puis après c'est les sous, mais c'est autre chose. Voilà. Alors tous les jours tu te dis que toi t'es un petit génie et du coup franchement ça te fait du bien. C'est mon conseil, c'est gratuit. Non mais franchement essaye. Hein.
Ah, vous avez tout à fait raison, parce que genre dans les ateliers que je fais, il y a un truc qui plaît beaucoup aux gens, c'est d'une part l'affirmation de soi, c'est de lister je suis le meilleur, j'ai réussi ici, parce qu'on a quand même tous réussi des choses dans notre vie, quelle qu'elle soit.
Pas de la mégalomanie.
Et c'est pas de la mégalomanie, non, pas du tout. Alors, évidemment, si vous êtes moi je, oui.
Mais dans sa tête.
C'est un peu de l'égocentrisme.
Et alors l'égocentrisme, ça fait du bien.
C'est une revalorisation de soi qui est vraiment importante. Et il y a un exercice que je m'amuse à faire. La radio, c'est peut-être pas facile, mais pour vos auditeurs, vous êtes dans une posture, vous relevez votre tête d'un menton. Vous allez voir, vous vous ouvrez. Et là, quelque part, vous avez l'impression de regarder les gens d'un peu plus haut et vous vous sentez reprendre les choses un peu en main.
C'est pour ça que pour toute émission importante, je mets des talons hauts. C'est exactement le même exercice. Un grand merci à Bastien d'avoir été avec nous au 32-16. On est avec Anthony qui nous appelle depuis Annecy. Bonjour Anthony.
Oui, salut.
Toi, tu es chef d'entreprise et tu essayes de déconnecter.
J'ai cru que tu allais lui demander s'il mettait des talons hauts.
Ben non, mais est-ce que... Ah, écoute, il y a d'autres méthodes. Hein. Est-ce que toi, tu arrives à déconnecter?
Ah ben complètement. J'ai déconnecté il y a à peu près 7 ans.
Ouais.
J'ai déconnecté quand j'ai... Alors, j'ai eu 15 ans d'activité dans la promotion immobilière à un niveau important. Et donc, suite à un licenciement que j'ai pu avoir du jour au lendemain comme ça, je me suis posé la question de savoir si je reprenais une vie professionnelle salariée ou je prenais mes deux entre les mains et puis je commençais à me lancer à mon compte. Quand j'étais salarié, j'avais Ulcère, c'était très compliqué.
C'était
pas facile. Ah bah oui, on a des salaires qui sont très élevés. Donc, forcément, on nous demande beaucoup de choses, alors qu'on pourrait travailler même à mi-temps et puis avoir autant de résultats. Mais bon, bref, c'est comme ça. Il y a beaucoup de process qui servait à rien. Mais bon, l'idée, c'est voilà, c'était un peu ça. Alors donc, du coup, je suis parti à mon compte. Et puis maintenant, ben, c'est une petite réussite. Hein.
Parce que tu gères ton timing toi-même, en fait.
Oh, ben, je suis à la maison.
Bah oui, t'es tranquille. Ouais.
Je travaille avec ma femme. Je vois mes enfants tous les jours.
Bon, après, c'est d'autres stress, hein, j'imagine, quand même, le chiffre d'affaires. Il y a un confort à être salarié aussi, quoi.
Ouais, ben, c'est le même stress que le salarié. Hein. C'est, sauf que mon patron, moi, c'est un peu la banque.
Tu vois, il y a des contraintes. Mais on peut y arriver, même en étant chef d'entreprise, à arriver à déconnecter. Restez avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler du travail. Est-ce que vous arrivez à déconnecter? On vous attend dans cette émission de Petit Génie. Car moi, si je suis un génie, vous aussi, Laurent, Emmanuel, vous êtes tellement intelligent. Allez, à tout de suite sur RMC.
Midi 15h.
Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour. On est ensemble jusqu'à 15h. 92% des cadres français pensent au travail en permanence. Alors, est-ce que vous arrivez à déconnecter? Emmanuel, c'est oui. Laurent, c'est non. Et on va aller voir Brice au 32-16. Brice, il est conducteur de travaux à Marseille. Brice, tu n'arrives pas à déconnecter. Tu penses au travail. Ça te réveille même la nuit en sursaut.
Oui, bonjour.
Salut, Brice.
Oui, effectivement, c'est très dur de déconnecter du travail quand en semaine déjà quand on part du travail, c'est pas on ferme la porte et ça y est, c'est la soirée quoi. C'est toujours penser est-ce qu'on a oublié quelque chose, est-ce que demain les gars qui vont partir n'auront pas oublié des accessoires ou autre. Donc très très compliqué de déconnecter du
T'es travail. toujours dedans.
Toujours dedans.
Là,
comme je disais, il y a donc là, moi sur les chantiers, on va dire, je suis conducteur de travaux, je m'occupe de certaines équipes qui vont chez le particulier, qui vont sur des gros chantiers, donc il faut tout gérer. Donc bon, ça fait partie du travail, donc c'est très bien, hein, c'est les responsabilités, ça y a aucun souci. Mais par contre, comme disait une personne qui est venue tout à l'heure, expliquer qu'il y a des coûts aussi. Effectivement, s'il y a des oublis. Ça a un coût. Renvoyer une équipe à cause d'un oubli, ben ça a un coût au niveau des plannings.
Mais voilà. Là, si ça joue sur ton sommeil, oui. Thierry Le Fur, qui est toujours avec nous, c'est là où est l'alerte quand même.
Oui, c'est vraiment le sommeil. Aujourd'hui, on se rend compte que ça joue tellement surtout, à la fois sur les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains types de cancers. Ça joue sur notre morale, ça joue sur notre capacité à être bien avec son entourage. Et surtout quand on est hyper connecté et avec son smartphone, tout à l'heure, on en arrive même... pendant l'amour, à checker son smartphone, et pour une proportion de gens de plus en plus énorme. Il faut savoir qu'il y a près de la moitié des femmes, alors je ne sais pas si les hommes, j'ai pas de stats, près de la moitié des femmes qui évoquent le fait de divorcer à cause du numérique excessif de leur mari. Donc tout ça, le sommeil, c'est fait pour dormir, c'est fait pour à un moment donné avoir sa zone à soi.
Ce qui est une zone de repos.
Une zone de repos, voilà.
Le sommeil, ça, oui. Absolument,
mais c'est Brice, à ça que ça sert. Attends, Brice, cette situation, tu l'as subie ou tu voudrais que ce soit différent ou tu es content que ce soit comme ça quelque part?
Alors là, à l'heure actuelle, avec mon nouveau travail, ça m'arrive quand même moins souvent qu'avant quand j'étais à mon compte. Quand j'étais à mon compte, c'était toutes les nuits à repasser à tout. Maintenant que je suis employé, c'est moins fréquent. C'est moins fréquent, mais ça arrive. Le week-end, d'un coup, je pense à quelque chose, pour le lundi, pour le mardi, je prends mon téléphone, sur mon petit bloc-notes, penser lundi matin à faire ça, voilà. C'est, dès que j'ai un moment de calme, j'ai le cerveau qui travaille et il pense au travail, lui, tout seul.
Je trouve ça passionnant, ces témoignages, parce que très honnêtement, quand j'ai lu l'enquête ce matin, j'ai compris que ça concernait les cadres, et donc j'imaginais j'imaginais des gens devant un ordinateur dans une entreprise. Bah Brice, il est conducteur de travaux, il a des responsabilités, il encadre des gens. Mais tout à l'heure, on avait un médecin. Avant, on avait un artisan taxi. Et au fond, la déconnexion.
Bah, on a Johan, qui est chauffeur livreur.
Ça concerne tout le monde, en fait.
Johan, toi, t'es à Albi, tu es chauffeur livreur et micro-entrepreneur, tu cumules deux activités différentes plus une famille.
Ah ouais.
C'est ça. Donc oui, j'ai deux activités. La première, bon, ma principale en tant que salarié, c'est chauffeur-livreur Donc je travaille du lundi au vendredi, généralement en journée, donc de 5h à peu près vers 16h. Et après, depuis 6 ans, j'ai une micro-entreprise, moi, dans l'événementiel, donc qui se passe essentiellement les soirs ou les week-ends. Donc,
donc c'est sans arrêt, samedis, sans arrêt.
Les dimanches, donc en tant qu'animateur de mariage et location de mobilier pour des événements. Donc j'ai un rythme de vie assez soutenu, 6 jours, voire 7 sur 7 parfois.
Mais par choix ou par obligation, Johan?
Alors par choix, parce que je le veux aussi, parce que l'idée en fait de ma micro-entreprise au départ, c'était voir un petit peu tatillonner comment, dans quelle figure, je voulais en fait avoir un emploi stable pour avoir un salaire, et derrière, et voir un petit peu les conditions de mon activité que je voulais faire, si ça pouvait marcher. Donc aujourd'hui, ça le fait. Aujourd'hui, je pourrais réellement vivre que de ma passion, on va dire, qui est la musique et notamment l'événementiel. Mais aujourd'hui, pour l'instant, 6 ans après, j'ai toujours encore les deux activités parce que d'un côté, je me sens comblé, mais au détriment, on va dire, de ma vie de famille qui, aujourd'hui, avait 3 enfants. Alors, certes, c'est un côté aussi économique, hein, parce qu'on manque de rien, on va dire, au niveau familial. Il y a ce côté aussi argent qui, pour de mon côté, n'est pas négligeable, mais c'est vrai qu'en contrepartie, n'étant pas présent de mai à septembre, par exemple, les week-ends pour les événements, c'est assez compliqué, on va dire, pour ma femme et les enfants, voilà, de devoir gérer.
Ah oui. Eh ben, on embrasse ta femme, hein, Johan.
Ouais, ça doit pas être simple tous les jours.
Tu l'embrasses si Johan est d'accord.
Non, mais on la félicite. On
lui serre la pince, si voilà. Je préfère. On lui fait un check du coude.
Un check.
Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous. Un grand merci à Brice également de nous avoir fait part de son quotidien. Merci beaucoup, Thierry Le Fur, de nous avoir accompagné pendant 7 heures, intervenant en prévention des risques professionnels et spécialiste des comportements numériques addictifs. Quel est le résultat définitif, Lisa Marin?
Un résultat plutôt rassurant sur nos réseaux sociaux, puisque vous êtes 70% à voir répondu oui, vous arrivez à déconnecter du travail.
Les gens se mentent à eux-mêmes.
Oui.
Il faut se mentir à soi-même.
Tu ne crois pas le résultat?
Je ne crois personne. Tu sais, c'est toujours mon truc.
Mais tu es auto-satisfaite.
Moi-même, exactement. Et ça me permet de vivre bien. Allez, on va aller en Norvège.
RMC. Midi 15h, Neumann Le Chypre.
Mesdames, messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français de l'étranger.
Et on part à la rencontre de Doran, bonjour, qui est en Norvège depuis 6 ans. Salut Doran, tu es anciennement violoncelliste à l'orchestre de la radio norvégienne NRK. Et tu t'occupes, tu parles tourisme en Norvège. Est-ce que tu parles norvégien couramment?
Bonjour à vous trois, je suis tellement heureux de vous avoir.
Alors, salut Doran.
En tant que bon français, malheureusement non, je ne parle pas si bien que ça. C'est une langue... un peu difficile, on va dire, mais je parle allemand, alors j'arrive à comprendre, mais étant donné que en Norvège tout le monde parle anglais, du coup avec ma copine qui est norvégienne, on parle anglais quotidiennement.
Comment tu as atterri Doran à Oslo en Norvège?
Alors de base, donc comme le disait Laure, donc je suis violoncelliste, donc je n'ai pas arrêté le violoncelle, bien entendu, mais en fait je suis venu en Norvège il y a 6 ans après avoir obtenu un poste de violoncelle solo à l'Orchestre symphonique de Trondheim. Puis j'ai rencontré ma copine norvégienne il y a 3 ans et on a déménagé à Oslo où j'ai été muté à l'orchestre de la radio norvégienne. Et depuis la pandémie, je me suis un peu reconverti. Je travaille maintenant en tant que coordinateur de projet à Talent Norge. C'est une organisation non lucrative créée par le ministère de la Culture norvégienne qui permet de développer et promouvoir les talents dans l'art et la culture basés en Norvège pour le monde entier, quoi.
Mais alors attends, Doran, juste une question. Pourquoi on va chercher un Français pour s'occuper d'une structure publique norvégienne?
Ah, le talent.
Ah, c'est dingue. Non, mais c'est bravo.
C'est grâce au contact, grâce aux liaisons. J'ai eu un long passé en Allemagne, toutes mes études et mon travail avant. Et maintenant, ça fait 6 ans que je suis basé en Norvège et que j'adore absolument ça.
Doran, je n'ai jamais mis les pieds en Norvège. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu es arrivé là-bas?
Oh, c'est la nature, les gens, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à la Norvège. Les endroits, les fjords, les aurores, tout ça, c'est absolument vrai. Il faut le voir. Les aurores, il faut voir ça une fois dans sa vie. C'est totalement différent par rapport aux photos. En fait, il faut le voir, il faut le sentir, parce qu'on peut entendre aussi les aurores boréales. Alors, j'en ai pas vu.
Mais ça fait quel bruit?
Alors, ça une sorte de ronronnement. Alors, il faut vraiment que ça soit un silence absolu. Mais un petit ronronnement vraiment tout petit qu'on sent dans le corps. Alors, j'en ai pas vu à Oslo parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, étant donné dans la capitale, mais j'ai fait des tournées dans le nord, vers Bodø, Trondheim.
Ah, mais moi, c'est mon rêve. Ah ouais, c'est mon rêve, je rêve de voir
ça. Ça fait du bruit, les aurores boréales.
Ah bah non, mais je rêve de voir ça dans une fois dans ma vie.
C'est pas un bruit, c'est vraiment
un ressenti, quoi.
Vraiment profond. Et Laurent, vous parliez tout à l'heure de déconnexion. Je vous invite absolument de venir vous déconnecter ici.
Il y a pas internet? Si, il y a internet quand même à Oslo.
Attends, moi je veux bien me déconnecter en Norvège, mais est-ce qu'on mange bien en Norvège?
Alors, on mange bien. Disons que tout ce qui est produit de la mer, alors ça, c'est absolument incroyable. Ça on se régale. Alors, ils ont quand même des produits, des plats bien vikings. Par exemple, il y a un plat que je suis obligé d'aimer parce que c'est un plat fait par ma belle-mère.
Ah oui.
Sinon, tu vas te faire virer, oui.
Voilà, exactement. Ça s'appelle
c'est
le.
C'est quoi?
Attends, comment? Répète.
Le lutefisk, en fait, c'est de la morue séchée qui est ensuite trempée dans de l'eau froide pendant 5-6 jours. Ensuite, c'est un long processus et à la fin, ça a une odeur et ça a une texture dans la bouche comme une sorte de flan de poisson absolument immonde. Je vous ferai goûter ça si vous venez.
Non.
Un flan de poisson.
On n'a rien contre la morue, mais le flan,
parce
c'est.
Que ça ressemble à, ça ressemble à, là, au bacalao des Portugais, là, tel que tu le décris.
Voilà, c'est ça, mais avec un goût pas top.
D'accord, bon. Bah ça donne envie. Moi, qu'est-ce que tu fais là-bas quand tu bosses pas? Qu'est-ce que tu fais à Oslo?
Alors, on a la chance, du coup, à 10 minutes, à 20 minutes de voiture ou de bus, d'être totalement dans la nature, imprégné ou d'aller au bord de l'eau. Enfin, les Norvégiens sont vraiment en osmose totale avec la nature et ils ont vraiment développé des routes qui mènent directement dans des fjords, en fait, dans des vallées où on peut totalement changer nos idées en quelques minutes, quoi.
Tu parlais de déconnexion, il fait quand même nuit 4 mois de l'année, non?
Ça déconnecte.
Je voulais pas en parler, en fait, pour moi, ce qui est plus dur, c'est plutôt en fait qu'il fasse jour tout l'été. En ce moment, je souffre un peu. Bon, je rentre en France pour les vacances la semaine prochaine après 2 ans à cause de la pandémie, mais les journées interminables pour moi, ça c'est encore plus dur que les nuits interminables parce que ici il y a très peu de volets. Du coup, on sent qu'il y a du soleil en fait, en quelque sorte. Et on est obligé d'avoir les masques sur les yeux, déjà qu'on les a sur la bouche tout le temps. C'est pas évident.
Doran, il nous reste quelques secondes. Est-ce que tu veux envoyer un message à ta famille?
Oui, alors j'aimerais faire un gros bisou à mes grands-parents, Panou et Manou, qui vous écoutent quotidiennement du petit village de Vindre, à côté de Béziers.
Ah, bah oui.
À mes parents à Toulouse et Nice, à mon petit frère Arnold, à ma copine Elbjörg, qui ne comprendra pas.
Et c'est pas grave.
À mes grands cousins Emmanuel et Babette et ma collègue française du travail Kéa. Merci infiniment à vous pour votre temps.
Bah écoute, merci à toi, hein, Doran.
Salut Doran.
Je crois que tu voulais faire un petit coucou à Vincent Moscato aussi.
Oh, ben
que tu aimes.
Vincent que j'aime, qui fait partie de ma famille, que j'écoute depuis 2011. Et voilà, et j'espère un grand cucu rouge par rapport au grand chelem de Kikadi d'Eric.
Eh ben écoute, il t'entend, il peut pas te répondre parce qu'on n'est pas sur les mêmes ondes, mais il t'entend et je suis sûre qu'il t'embrasse. Un grand merci à toi, Doran, de nous avoir raconté Oslo en Norvège. À très bientôt sur RMC. C'est la fin de Neumann le Chypre. On se retrouve demain, midi 15h. C'est l'heure du Super Moscato Show. Dans un instant, salut.
Neumann le Chypre.
Midi 15h sur RMC.